des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Le temps aurait-il été suspendu ? Se serait-il arrêté un 17 mars 2020 ? Les battements du cœur, nos cellules auraient-ils ralenti leur inexorable marche ? N'exagérons rien, si le temps, pendant le confinement, a pour certains pris un poids considérable, pour d'autres il est devenu léger comme une bulle de savon. Bref, il n'y a pas deux expériences semblables. Cependant, pour tous les actifs forcés à l'inaction, cette question s'est posée à un moment ou à un autre. Que faire de son temps quand on en a plein ? Et si notre rapport au temps était le nœud central de toutes nos tensions ? En tout cas, pour la chorégraphe Mathilde Monnier, le temps est devenu une obsession avec le confinement. Écoutons-la, c'était au micro de France Culture.
Alors moi, je suis plutôt une obsessionnelle du temps, surtout dans mon travail. Je suis complètement... j'ai un rapport au chronomètre qui est assez compliqué et le temps est vraiment une dimension très, très importante. Et alors là, je suis complètement en rééducation temporelle parce que j'ai perdu tous mes repères. J'ai dû un peu éprouver ce qu'est l'ennui. J'ai dû éprouver une autre intensité de temps. Et comme je suis bélier, que je suis toujours en train de plutôt regarder vers l'avant que de regarder vers l'arrière, là aujourd'hui, je dois dire que c'est très très compliqué pour moi, parce que j'ai l'impression d'avoir un temps de retard et que je suis complètement désynchronisée en fait.
Docteur Dominique de Michel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, évidemment, on a adapté notre série d'émissions sur le temps pour parler du confinement et de ce temps qui s'est suspendu. J'aimerais commencer par une question peut-être un petit peu provocatrice. Avez-vous plus de patients dans votre cabinet de psychanalyse depuis le confinement ? Les gens sont-ils devenus fous ?
Non, je ne crois pas. Je dirais que pendant la période du confinement, l'essentiel de mes consultations étaient des consultations téléphoniques et que, par contre, cette modalité particulière d'échange où il y avait là le langage qui prenait toute sa place et puis le corps qui était dans une certaine mesure largement absent, a contribué quand même à rendre pour certains, mais ce sont les moins nombreux, le lien un peu plus difficile. Et pour un certain nombre, à l'opposé, ça a été l'occasion de peut-être quelque chose qui pouvait être rendu encore plus intime, au fond. Comme si le corps donnait une extimité, hein, c'est le contraire du mot intimité, une extimité particulière. Et au fond, dans le fait qu'on était juste au téléphone, il y avait quelque chose de particulier qui se disait. Par contre... Le changement de rythme que le confinement a imposé, hein, voilà, pas de transport ou moins de transport, une journée qui était scandée de manière souvent radicalement différente, la présence des enfants, la notion de télétravail, ou pour certains, le fait que le travail ne changeait pas beaucoup, je pense aux livreurs, aux gens qui travaillaient dans les magasins, mais où bien évidemment quelque chose avait complètement changé.
Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à cette chorégraphe Mathilde Monnier qui prétend avoir été complètement désynchronisée et qui se dit une obsessionnelle du temps, déjà ?
Oui, j'aime bien cette notion de désynchronisation. Hein. Probablement, un des éléments qui contribue au fait d'être heureux dans la vie, c'est qu'il y a une sorte d'adéquation entre un projet de vie et puis ce qu'on réalise dans son existence. Mais une des modalités particulières de cette adéquation passe probablement, en tout cas, par le rapport au temps. Hein. C'est-à-dire, on sait bien que lorsqu'il y a quelque chose qu'on désire très fort, on a du mal, par exemple, à le différer, c'est-à-dire à le décaler dans le temps. Lorsqu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas du tout faire, on a une énorme tendance à le reporter dans le temps. Donc on voit bien probablement que chez cette femme, en tout cas c'est ça que j'ai entendu, que chez cette femme, le rapport au temps était un rapport obsessionnel, l'obsession, on pourrait dire, c'est d'abord et avant tout un désir de maîtrise. Hein, voilà, l'obsessionnel, c'est celui qui maîtrise et celui qui a envie d'avoir une sorte de toute-puissance. Voilà, alors il fait l'épreuve aussi de la limite de ça. Donc, dans cette femme, pour cette femme, probablement, les conditions de son travail, peut-être les exigences objectives de son travail, entraient en résonance avec sa personnalité, son identité, qui fait qu'elle, elle avait besoin d'avoir un temps très scandé, très mesuré, très pointé, très cadré, pour se sentir à l'aise. Voilà. Alors on peut imaginer que, puisque c'était une danseuse, en effet, dans la danse, il y a évidemment quelque chose qui est en rapport avec l'espace, mais il y a quelque chose qui est en rapport avec le temps. Il suffit de penser, par exemple, à une troupe de danseurs, et ben voilà, il y a énormément de choses qui doivent être parfaitement synchrone ou désynchronisé, mais même cette désynchronisation est volontaire. Et voilà. Donc on voit bien que là, le temps scande, dans cette scansion qui est presque à la fois une sorte de marquage, mais qui peut être quelque chose qu'on entend comme un hurlement dans ses oreilles, un hurlement insupportable.
Alors je le disais, il n'y a pas deux expériences semblables, évidemment, mais il semble bien, et vous l'avez confirmé, que le cœur du problème a été la gestion du temps. Je parle pendant ce confinement, mais on peut l'élargir à notre vie entière. Cette gestion du temps, bah alors avec les enfants, avec le couple, et évidemment par rapport à soi.
Oui, oui, oui. On peut se rappeler, puisque vous parliez d'époque, hein, on peut se rappeler que le film de Chaplin, Les Temps modernes, hein, les temps modernes, c'est-à-dire ce qui concerne notre modernité, même si on parle peut-être plus maintenant de postmodernité. Ce film s'ouvre sur l'installation d'horloges au cœur du village, de montres au fond des goussets, de pointeuses, de cadences. Hein, et peut-être les gens se rappellent de Charlie Chaplin, là, dans cette espèce de chaîne de montage. Et puis on voit bien que lui, il se désynchronise comme ça, et puis que c'est le foutoir le plus complet. Donc, notre société a été sûrement très très marquée par le fait que le rythme, cette intensité, on a été très aiguillonné par l'obsession du rendement. Et l'obsession du rendement tient à l'utilisation de l'objet, bien évidemment, mais beaucoup à l'utilisation du temps. Hein, c'est-à-dire, si on peut faire une pizza en 10 minutes au lieu de la faire en 20 minutes, c'est bien. Et si on fait la pizza en 5 minutes au lieu de 10 minutes, c'est encore mieux. Hein. Et que l'enjeu, ça va être surtout de gagner de l'argent. Donc, que le mieux, maintenant, le plus souvent, signifie plus vite.
Oui, mais on sait bien également que ce temps gagné, ce n'est pas un temps essentiel. En fait, on perd énormément de temps, d'autre part, sur ne serait-ce que les réseaux sociaux ou devant la télé. Je veux dire, on n'est pas en train de sauver des vies à chaque instant et chaque minute de notre vie n'est pas essentielle à l'humanité, par exemple.
On peut même probablement penser que cette promptitude de tous nos gestes est devenue en quelque sorte souveraine, elle est devenue tyrannique. Qui, en dehors de l'accélération, il n'y a point de salut, en gros que mourir ou courir, il faut choisir, mais que, comme il ne vaut pas mourir, il vaut mieux courir. Et que, comme vous le dites à juste titre, le gain subjectif, et on pourrait dire là un gain d'être, j'espère qu'on aura l'occasion de reprendre ça, que le gain d'être, souvent, le plus souvent, il est extrêmement difficile à percevoir par nos contemporains et probablement par nous tous, parce que ne nous leurrons pas, même si certains d'entre nous peuvent avoir la prétention de résister un petit peu plus, de se donner des plages de liberté, des temps de rêverie, des moments entre guillemets inutiles, c'est-à-dire où il n'y a pas une sorte de gain d'avoir ou un gain de temps. Hein. On est quand même très 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 entraîné par cette logique du toujours plus vite.
Toujours plus vite et surtout, nous avons donc vu pendant le confinement, j'en citais quelques exemples, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, justement, cette absence, ou alors ce trop-plein de temps libre, qui, du coup, va engendrer dans nos relations, par exemple avec nos enfants, je prends l'exemple des enfants, on l'a vu beaucoup sur Internet, de façon parfois très humoristique, des parents qui pétaient les plombs parce que leur enfant était là 24 heures sur 24 et n'allait pas à l'école. Cela signifie que, justement, cette problématique du temps, elle est centrale, du coup.
Le fait d'être organisé dans sa journée, d'avoir des rythmes, ça nous fait gagner énormément d'énergie, ça c'est sûr. Hein. Tout changement à l'intérieur de sa vie est toujours coûteux. Hein. On sait par exemple qu'un déménagement, un simple déménagement qui va changer énormément d'habitudes, que ce soit le lieu où on va chercher le pain ou l'endroit où on va brancher la bouilloire et comme ça, le déménagement est un coût important. C'est-à-dire il y a un changement de rythme. Donc je crois qu'en effet, dans ce confinement, d'un seul coup, l'espace s'est réduit, les communications avec les autres se sont énormément réduites, et surtout, on s'est retrouvé dans une scansion, j'ai envie encore de reprendre ce mot-là, dans une scansion de la journée radicalement différente. Donc, ça a nécessité une réorganisation psychique à l'intérieur de nous-mêmes, et cette réorganisation a été, je pense, très très coûteuse. Alors la présence aux enfants ne me paraît pas être, en tout cas pour moi, directement lié à l'interaction subjective entre les parents et les enfants, parce que je crois que dans une certaine mesure, elle n'a pas profondément changé, même si de temps en temps, il est arrivé assez souvent que les enfants en aient vite marre des parents et que les parents en aient vite marre des enfants. Mais c'était très superficiel et ça n'empêchait pas la valeur et la qualité du lien. Mais les enfants étaient toujours dans la demande, les parents avaient de temps en temps leur travail à côté, et donc là, il y avait une organisation du temps qu'il fallait inventer. Ça, c'est très coûteux sur le plan psychique. Donc je crois que dans cette interaction-là, il y avait quelque chose de tout à fait nouveau, et qu'il s'agissait d'organiser le temps. Et d'ailleurs, il est arrivé, enfin, dans les échos que j'ai pu en avoir, il est arrivé que justement les adultes et les enfants choisissent d'organiser la journée avec plus de contraintes. Voilà, comme si au fond, bon, alors on va faire ceci à telle heure, on va arrêter de travailler à midi, on va préparer le repas tous ensemble, puis ensuite on va manger. On ne reprendra qu'à 14h par exemple, on va bien faire le goûter à 16h30 ou 17h avec des rythmes. Et au fond, ces rythmes probablement donnent un rapport au vécu subjectif de la journée plus fractionné et plus facile à vivre. Hein. Le fait par exemple de se retrouver devant un temps ouvert, avec rien à mettre dedans, est souvent très porteur d'anxiété chez les gens. Comment je vais remplir mon temps ? Et ça renvoie à quelque chose de fond qui est cette dimension de l'angoisse. Cette dimension de l'angoisse, je la renvoie à la question du vivre et du mourir. Et je rappelle que quand les gens disent « Oh, mais moi, de toute façon, je n'aime pas les temps morts », c'est une manière de dire « Je n'aime pas les temps de mort ». Ce matin, par exemple, vous voyez, à ma consultation, j'ai vu une dame qui avait pris sa retraite au 1er mai, donc là, on est au mois de juin, au moment en tout cas où on enregistre l'émission. Et une de ses très, très grandes difficultés, c'est qu'elle se retrouvait avec un temps vide. Elle, qui avait eu 5 enfants, qui avait été très, très active, engagée, voilà, et elle se retrouvait avec quelque chose qui était pour elle tout à fait insupportable. Donc le rapport au temps renvoie à nos investissements existentiels, donc au fond, à la manière dont on déploie notre identité.
Mais j'ai envie de dire, c'est malheureusement une anxiété, car ça devrait être au contraire une source de richesse, de pouvoir s'interroger, de pouvoir chercher en soi qui on est. Or, pendant le confinement, et surtout après, au moment du déconfinement, tout le monde s'est empressé de reprendre ses anciennes habitudes. Et je rappelle que pendant le confinement, on a essayé au maximum de garder ses anciennes habitudes en surfant sur les réseaux sociaux ou bien en commandant à outrance dans des magasins qui pouvaient nous livrer à domicile.
Oui, et puis bien, il y avait aussi à garder le lien avec ces temps d'apéro via Skype ou autre chose, enfin les autres réseaux sociaux, WhatsApp ou autre chose. Donc, je pense qu'il y avait là quelque chose de tout à fait difficile, mais j'ai un peu oublié votre question, je ne sais pas si...
Je disais que c'était dommage que ça se termine en anxiété, alors que ça devrait être une source de richesse.
La sensation d'un vide du côté de l'agir est beaucoup plus exigeant. L'extériorité, la projection à l'extérieur de soi-même et de ses désirs donne le sentiment d'un plein qui fait exister. Il est vraisemblable, et je pense que toute la littérature depuis extrêmement longtemps le dit, probablement une partie des religions le disent aussi, que ce qui fonde quand même la réalisation ou l'accomplissement de nous-mêmes, c'est d'abord et avant tout la vie intérieure, hein, une vie intérieure partagée. Hein. Mais voilà, l'agir, c'est plus pratique. Hein. Donc, consommer, c'est toujours plus pratique. Ça occupe, voilà, il y a le fantasme par rapport à l'objet, il y a l'achat de l'objet, il y a l'utilisation de l'objet. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est de l'ordre souvent un petit peu d'une déception, en tout cas de l'objet lui-même, ou même du rapport subjectif à l'objet. Et donc ensuite, on recommence.
Alors, nos ancêtres, qui vivaient certes malgré eux, de façon beaucoup plus proche de la nature, étaient contraints d'adopter un temps beaucoup plus doux. Les journées raccourcissaient en hiver ou bien s'allongeaient, donc on se levait plus tôt ou plus tard. On était obligé de s'arrêter pendant la saison des pluies ou des moussons.
Oui, je ne sais pas très bien comment ça se passait. Ce qu'on peut dire, c'est que j'aurais un peu envie de dire que comme il y a peut-être encore un siècle, hein, où la France était quand même énormément rurale, il y avait beaucoup, beaucoup plus de temps de parole. Hein. Donc je crois que le temps de la veillée, en particulier, était un temps d'une très, très grande richesse. Hein. Pourquoi les contes, puisqu'on a partagé ensemble des temps de réflexion sur les contes, pourquoi les contes avaient tant d'importance? Pourquoi les personnes âgées étaient là comme les grands organisateurs, les grands maîtres des veillées? C'est parce qu'ils avaient une mémoire, ils transmettaient cette mémoire et ils favorisaient un échange. Hein. Et puis, peut-être qu'on peut penser que dans notre société où le langage a pris une place extrêmement importante, rester en silence à côté de l'autre nous est devenu beaucoup, beaucoup plus difficile. Moi, je sais comme psychanalyste, par exemple, que de temps en temps, les gens ne parlent pas et je laisse le silence. Et il y a des gens pour lesquels ce silence est très difficile, pas supportable. Moi, j'ai certaines personnes que je reçois où je sais que pendant très, très longtemps, et ça peut durer parfois plusieurs mois, en tout cas plusieurs séances, mais parfois plusieurs mois, il est important que j'ouvre par une petite parole. Comment s'est passée la semaine, ou vous avez eu un rêve, ou quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, le silence d'accueil qui dit je m'ouvre à ce qui va surgir de l'intérieur de vous-même, ce silence est insupportable. Donc je pense que partager une rêverie l'un à côté de l'autre, dehors, allongé dans l'herbe, ou même en hiver, quand il fait pas très chaud, en dehors du mètre qu'il y a autour de l'âtre ou de la cheminée, c'est quelque chose que peut-être on ne sait plus bien faire. Hein. Donc ça renvoie au rapport subjectif au temps, hein, puisqu'il faut se rappeler la thématique de notre échange, c'est-à-dire où l'agir a pris toute la place, où il s'agit de courir tout le temps. Et je rappelle qu'un philosophe comme Paul Virilio a dit aussi que le critère majeur de la guerre, comme de la domination politique et technique, c'était le temps. C'est-à-dire on voit bien que là, il y a une manière de cadrer les choses. Barbara Stiegler aussi a montré que le néolibéralisme s'accompagne toujours d'une incitation constante à se conformer à cette accélération. Donc il y a un collectif, c'est-à-dire en gros, il n'y a plus cette logique du progrès et cette logique du déploiement de l'identité de chacun, mais il y a cette logique du profit. Et cette logique du profit, elle passe, elle transite énormément par le temps, puisqu'il s'agit de fabriquer la pizza, non plus en 20 minutes, mais en 10 minutes, puis ensuite en 5 minutes.
Oui, le temps, c'est-à-dire la vitesse, avec, j'ai pris quelques exemples un peu au hasard, ils sont légion, le TGV Lyon-Turin, qui est en construction et qui mettra 2 heures pour relier ces deux villes, alors que apparemment, il n'y a pas vraiment besoin dans cette vallée qui est plutôt calme, ou encore les transactions financières qui se font en 37 microsecondes. Ouais. Ça devient totalement de la science-fiction.
Ouais. Le temps de réaction minimum de notre cerveau, en gros, qui est pourtant quand même extrêmement rapide, c'est 200 millisecondes. Hein, millisecondes. Donc, c'est beaucoup plus. C'était un cinquième de seconde. Hein. Un cinquième de seconde, c'est quand même très, très court. Mais ça prend du temps. Hein. C'est-à-dire, entre le moment, par exemple, où la pensée vient et où l'acte suit, il faut 200 millisecondes. C'est un ordre de grandeur. Hein. Donc, c'est rapide, mais rien à voir avec ces transactions immobilières dont on a l'impression qu'elles sont quasi instantanées. Quoi, hein. On se demande là où est la réflexion. Ouais.
Alors, les grandes spiritualités, les petites aussi d'ailleurs, pourquoi pas, avaient tout à fait saisi cette tension, me semble-t-il, du rapport au temps. Ça a même été peut-être un de leurs plus grands apports, créer un temps hors du monde, car peut-être que sans cela, sans ces temps obligés, je pense évidemment aux jours fériés, je pense au Shabbat chez les Juifs, et bien sans cela, peut-être que le monde l'homme n'est pas capable, tout simplement, tout seul, sans ces contraintes imposées par les spiritualités, de gérer un rapport sain au temps.
On pense aux traditions monastiques, par exemple aussi, dans lesquelles le rythme du temps est important. C'est d'ailleurs intéressant.
Attends, puis un arrêt du temps aussi, c'est ça. Je pensais aussi à Shabbat. On arrête de travailler, c'est fini. On se pose et on entame une autre relation par rapport au monde aussi, une relation par rapport à soi et puis par rapport au divin, évidemment.
Oui. Et puis pour le Shabbat, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement contraignant. Hein. De temps en temps, on se demande si le rite n'a pas perdu sa fonction rituelle, qui est justement de faire ce lien entre le profane et le sacré, et s'il ne devient pas comme une sorte d'objectif en soi. Mais bon, c'est un autre débat.
Mais peut-être peut-on renverser la chose en se disant que s'il n'y avait pas justement toutes ces contraintes, le Shabbat se casserait la figure. Pareil, prenons l'exemple du dimanche chez les chrétiens, qui en Occident, malheureusement, ne veut plus rien dire depuis quelques décennies.
Voilà, on fait les courses parce que maintenant les magasins peuvent être ouverts le dimanche, on fait la lessive, on fait le ménage.
Et puis le dimanche se réduisait en fait à une heure, peut-être le repas après, à la messe, quoi. La messe et puis le repas qui suivait.
Il y a encore, il me semble, quand même pas très très longtemps, le temps, j'allais dire, de la promenade après le repas du dimanche midi était quand même un temps qui était important,
hein,
qui avait
presque
une valeur rituelle,
qui était, presque, il me semble. Effectivement, dans beaucoup de familles en tout cas.
C'est intéressant de savoir que le mot lenteur, donc qui s'oppose à ça, il n'apparaît en français avec son sens actuel qu'en 1355, donc au XIVe siècle, et que le latin lentus indique, en plus du rapport au temps, en plus de dire c'est lent sur le plan de comme ça, ça veut dire aussi ce qui est mou, ce qui est flexible. Et autrefois, on considérait les barbares comme ceux qui étaient apathiques, indolents, paresseux. Et on a d'ailleurs très très longtemps dit que les Africains, qui ont un rapport au temps, je pourrais en redire un petit mot tout à l'heure après, qui n'est pas le même qu'en Occident, que les Africains étaient tous paresseux, enfin en tout cas les gens d'Afrique noire. Donc tout rapport de force, je crois, c'est un rapport au temps. Et notre société qui est dominée par tout ce qui est fluide, tout ce qui est rapide, tout ce qui est flexible, on sait bien la flexibilité dans le travail, et est-ce que vous êtes réactif, ça c'est important, quand on dit vous êtes réactif, ça veut dire est-ce que vous êtes rapide, surtout, voilà, ça change. Donc, à quand prendre le temps ? Je reviens un tout petit peu en Afrique, puisque dans l'Afrique noire, qui est un continent que j'aime beaucoup, j'y ai fait mon service militaire, j'y suis allé une autre fois aussi pendant pas mal de temps. Je me souviens au début que j'avais énormément de mal, parce que quand on disait aux gens « on se retrouve demain », ils disaient « oui, on se retrouve demain ». Puis le lendemain, voilà, c'est-à-dire le demain, pour un Africain, en tout cas, mettons, il y a 30 ou 40 ans, ça n'avait pas la même signification. Ce qui veut dire aussi que là, le rapport au temps a une dimension culturelle très importante. L'autre chose que j'ai envie de dire aussi, qui est tout à fait intéressante et qui vaut analyse, en tout cas pour le psychanalyste, c'est le retard, par exemple. C'est intéressant, le retard, parce que tout le monde sait que l'exactitude, c'est la politesse des rois, je crois, ou on dit quelque chose comme ça, voilà. Donc, il y a une sorte d'exigence. Mais quand les gens viennent pour leur séance, il y en a qui, régulièrement, sont en retard. Alors, les gens qui ont des séances courtes, par exemple, de 30 minutes, il y en a d'autres, c'est 3 quarts d'heure, plus souvent 3 quarts d'heure, mais voilà, il y en a qui arrivent de temps en temps avec 5, 10, 15 minutes de retard. Voilà. Alors, ça interroge, bien évidemment. Alors, c'est leur temps, mais c'est souvent l'occasion de penser aussi que le retard, ça peut être une sorte de négligence par rapport à soi-même ou par rapport à l'autre. De négligence, c'est-à-dire j'y mets pas de valeur, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, mais juste de négligence par rapport à soi, ou de négligence par rapport à l'autre, ou de négligence par rapport à son projet lui-même. Mais de temps en temps, c'est une forme de résistance aussi. Donc c'est intéressant de temps en temps de considérer ça. Voilà. Et je me souviens très bien en tout cas d'une personne qui est venue pendant peut-être plus d'un an ou un an et demi, très 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 en retard, de temps en temps arrivant pratiquement 10 minutes avant la fin. Et on a longuement travaillé ça, et on a vu combien elle avait pu être extrêmement prise par le métier de commerçant de ses parents, qui en gros n'était jamais là, avec les contraintes des commerçants, on ouvre très tôt le matin, on termine tard le soir, et qu'au fond, sa résistance était sa seule manière, entre autres choses, c'est un peu rapide, mais de dire j'existe, voilà, et je suis là, voilà. Sauf qu'évidemment, ça émergeait d'elle-même sans que ça soit conscient, et donc ça l'entravait plus que ça ne la libérait, hein, puisque ça ne la faisait pas en soi exister. Ça lui donnait le sentiment illusoire d'exister, entre guillemets, contre l'urgence vécue dans le travail de ses parents, mais ça ne l'était pas trop.
Alors, docteur Dominique de Michel, on arrive bientôt à la fin de cette émission. On a fait ce constat qui me semble être malheureux de cette tyrannie du temps. Comment en sortir ? Nous l'avons vu, les grandes spiritualités ont proposé quelque chose qui, malheureusement aujourd'hui, en tout cas en Occident, ne rassemble plus, ou pas assez en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce temps tyrannique ?
Oui, on aura envie d'utiliser tous les oxymores classiques, c'est-à-dire « dépêche-toi d'aller moins vite » ou « accélère ta décélération » ou « presse-toi de ne pas te presser hein. ». On voit bien ce que ça veut dire. Et il y a urgence à prendre son temps. Hein. Alors, on voit bien que là, on est dans la contradiction la plus totale. Et en même temps, on ressent bien cette urgence et on ressent qu'elle est de nature existentielle. À prendre son temps, on voit bien que là, c'est résister par rapport à cet impératif que la société nous impose. Donc je crois que ça, c'est Hartmut Rosa qui a beaucoup travaillé ça. Je sais qu'il a ressorti un autre livre récemment, mais que je n'ai pas lu. Mais peut-être pour les auditeurs, vous pouvez aller rechercher avec ce nom-là, Hartmut Rosa, R-O-S-A, si ça vous dit. Il y a vraiment des choses intéressantes autour de l'idée d'arrêter de vouloir tout contrôler dans le monde, mais de se laisser entrer en résonance. Dans un de ses livres les plus importants, Hartmut Rosa, il parle de cette résonance. Laisser entrer une résonance à l'intérieur de soi, nous laisser toucher, nous laisser émouvoir, nous laisser éblouir, nous laisser troubler, au fond, par tout ce que le monde renferme, au fond, d'inattendu, d'immaîtrisable, de nouveau, et en particulier du côté du beau et tout ce qui touche du côté de l'esprit. Et c'est vrai que l'esprit, ben, ça s'oppose à l'objet. Hein. Donc l'objet, c'est la consommation, l'esprit, c'est du côté de l'être, et c'est pas du tout dans le même registre.
Hein. En tout cas, prendre conscience que ce temps nous tyrannise, c'est sûrement le premier pas.
Je crois.
Docteur Dominique de Michel, merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Grand Ciel.
Merci Simon.
Thou swell, thou witty, thou sweet, thou grand, wouldst kiss me pretty, wouldst hold my hand. Both thine eyes are cute too, what they do to me. Hear me holler, I choose a sweet Lollapalooza in thee. We'd be so sweet in a hut for two, two rooms and kitchen, I'm sure would do. Give me just a plot of not a lot of land. Thou swell, thou witty, thou grand. Lollapalooza in thee. we'd be so sweet in a hut for two, two rooms and kitchen, I'm sure would do. Give me just a plot of not a lot of land, and thou swell, thou witty, thou sweet, thou pretty, thou swell.